Bonjour, bonsoir, vous écoutez Voix de Fée sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Vous êtes en compagnie de Nicolas,
Johnny,
Stéphane,
qui a encore pas mis le bon micro.
Farouko. Et cette semaine à l'émission, ben, on va parler du mouvement des femmes. L'action se poursuit contre la privatisation de la santé.
Pour parler des Québécois qui sont toujours plus nombreux à recourir aux banques alimentaires pour se nourrir comme il faut.
Et d'un reportage sur les mouvements d'extrême droite en Europe.
Et un reportage sur les mouvements d'extrême droite en Europe. Mais avant
t'as des invités,
ça...
hein?
Quoi?
Avant, t'as des invités, je crois.
Ben oui, avant ça, j'ai des invités. On va parler de mouvement étudiant avec deux élus de l'Association générale des étudiants et des étudiantes du collège FX Garneau. Tout de suite après cette chanson que Farouko voulait dédier au maire de Laval.
Ouais, Monsieur Vaillancourt. Ce soir ou ce matin, selon... Non, cet après-midi, parce qu'on est en diffusion les dimanches à 15h. Ben, on a perdu confiance. Il y a un groupe de Montréal qui chante là-dessus.
Il suffit de changer sa couleur d'enveloppe, en fait.
Once again you lose the game. Trust is lost, you'll pay the price. The game's so neat, she's so sweet. Once again you lose the game. Trust is lost, you'll pay the price. Trust is lost. Trust is lost. Trust is lost. Trust is lost. Once again, you lose the game. Trust is lost, you pay the cost. Thinking so neat, she's so sweet. Once again, you lose the game. Trust is lost, you pay the cost. Trust is lost. Trust is lost. Trust is lost. Trust is lost.
La blague anarchiste. Pourquoi la main invisible est-elle plus cultivée que Dieu? Parce que tous les ouvrages interdits par les religions ont historiquement été mis à l'index. Quelle est la différence entre la main invisible et le diable? Le diable peut incarner une multitude de personnages, alors que la main invisible, elle, ne peut incarner que ses ombres. Quelles blagues les policiers font-ils toujours aux anarchistes lors des manifestations? Ils demandent à parler à leur chef. Quel est l'ustensile le plus anticlérical? C'est la cuillère à thé. Quel est le dessert le plus anti-bolchevique? C'est, bien sûr, la Kronstadt aux pommes.
Après ça, qui osera dire que les anarchistes n'ont pas d'humour? C'était la blague anarchiste par notre collaborateur Thomas sur les ondes de CKIA 88.3 Québec. Vous écoutez toujours Voix de Fait. Alors, ça bouge dans le mouvement étudiant. La semaine dernière, Jenny nous parlait d'une manifestation qui avait tourné à l'émeute en Grande-Bretagne, à Londres, des opposants à une hausse des frais de scolarité qui était plus de 50 000 dans les rues, 2 000 qui avaient occupé le toit de la permanence du Parti conservateur et tout et tout. Ben peut-être que ça s'en vient tranquillement pas vite au Québec, peut-être pas sous cette forme-là, on s'entend, mais ça bouge dans le mouvement étudiant. Alors imaginez-vous donc que le 6 décembre prochain va avoir lieu à Québec une rencontre des partenaires en éducation qui a été convoquée par la ministre de l'Éducation. Et selon toute vraisemblance, le gouvernement va tenter dans cette rencontre-là d'obtenir un consensus sur une hausse de frais de scolarité. Alors, selon l'Ultimatum Express, c'est le journal de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, il y a trois scénarios qui sont à l'étude et qui vont être proposés aux 10 partenaires. Alors, le premier scénario, c'est une augmentation de 500$ des frais de scolarité par année, jusqu'à ce que les frais atteignent 80% de la moyenne canadienne. Le deuxième scénario, c'est la modulation des frais selon le programme d'études. Et le troisième scénario, c'est atteindre la moyenne canadienne des frais de scolarité, c'est-à-dire 5350$ sur une période de 4 ans. Comme c'est maintenant l'habitude, il y a deux perspectives différentes par rapport à cette rencontre-là qui ont émergé dans le mouvement étudiant québécois. D'un côté, on a les fédérations étudiantes FECFERC et la troisième voie, la fameuse TASEC, qui a été créée par des associations dissidentes de la FERC, dont notamment la CADEL à l'Université Laval et l'Allier, donc les associations de premier cycle et deuxième, troisième cycle, qui vont participer à la rencontre nationale, mais qui, par ailleurs, vont s'organiser des manifestations à l'extérieur. De l'autre côté, dans le champ gauche, disons, il y a l'Association pour une solidarité syndicale étudiante et plusieurs associations indépendantes qui appellent à un boycott franc de la rencontre. Alors, il y a un front commun contre les hausses de frais de scolarité, deux fronts communs contre les hausses de frais de scolarité qui se sont mis en place. Un premier qui est dirigé par la FEC, la FERC, et qui sont allés chercher l'appui des différentes centrales syndicales, on en avait parlé. Un deuxième qui est la table des partenaires en éducation qui regroupe, en fait, syndicats d'étudiants, de profs, chargés de cours, d'associations étudiantes, qui organise une journée d'études le 25 novembre. Puis, finalement, le 6 décembre, on va avoir une manif à Québec. Donc, en gros, c'est là où est-ce qu'on s'en va. La C, de son côté, elle invite les associations étudiantes québécoises à tenir des assemblées générales de grève pour perturber la tenue des rencontres des partenaires universitaires. Je reviens de vérifier sur le site de la C. En ce moment, il y a 11 associations étudiantes qui représentent à peu près 33 000 membres qui ont déjà pris un mandat pour 3 jours de grève. Et dans les prochaines semaines, il y a 6 autres associations au moins qui vont tenir des votes de grève. C'est une mobilisation qui se construit en plusieurs temps. D'abord, il y a une journée de perturbation le 23 novembre prochain. Ça, c'est pour le premier jour de grève. Donc, le 23 novembre, il va y avoir des actions un peu partout au Québec. Puis, on va pouvoir en parler à l'instant avec des militantes de l'Association étudiante de Garneau. Et en fait, c'est pas à proprement parler une mobilisation étudiante, mais c'est une action de la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics qui vise le gouvernement libéral pour l'ensemble de son œuvre budgétaire. Ensuite de ça, il y a la journée d'études du 25 novembre. Et finalement, il y a le 6 décembre, grosse manifestation à Québec pour perturber la rencontre des partenaires en éducation. Alors, c'est pas mal ça pour mettre la table. On va s'en aller écouter le ministère des Affaires populaires qui nous appelle à monter à l'abordage. Il me semble que c'est un thème qui s'impose dans le contexte. Et tout de suite après, on revient avec des militantes de l'Association générale des étudiants et étudiantes du Collège FX Garneau.
Salle d'un banque, le volant creux noir, les femmes et les enfants debout.
Larguez les amarres!
Marin des mers du Nord, j'timi Moussaillon. Une nouvelle page doit s'écrire, on met les voiles pour de bon. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'international des pirates sera le genre humain. Gardons le cap coûte que coûte, même en pleine tempête. Bandit, contre l'ordre établi, relevons la tête.
Encore un refrain pour afficher nos couleurs. Encore une douille pour défier nos censeurs. Encore un pavé dans la tronche de l'oppresseur. Encore une grève pour défendre nos valeurs. Qui a cru qu'on était tous anesthésiés, qui pensaient qu'on avait tous démissionné, que Babylone nous avait ensorcelés, qu'il suffisait désormais de nous dire qu'on pensait. Pour foutre un bordel à la portage, pour mettre en crème sel à la portage, pour foutre
aux politiques, les penseurs de leur mère, va leur dire que le MAP est en guerre, va leur dire qu'on a capté leur petit manège, qu'on a assez de plastique pour faire sauter leurs privilèges. On peut se les faire si on reste bien groupir, bien soudés, on fera chuter leur empire. Ils ont les lois, les matraques et les tasers, on a la foi et de la rage dans les viscères. Écumons les scènes, bougons de ville en ville, constituons notre armée de bras cassés, d'affreux d'immondes. Sous l'œil de la lune rousse de toutes parts, les renforts arrivent. Repartons à l'assaut des navires des grands de ce monde. Ces vaisseaux assassins ce soir pour sûr connaîtront un triste sort sous l'assaut de nos sabres. Captain Radio Crochet monte le son, donne-nous du cœur à l'ouvrage. Bon pied, bon oeil, on part à l'abordage. Subsiste cette philosophie qui proclame une race supérieure et une autre inférieure. En toute impunité, en toute légalité, man ce sera la guerre. Tant que la couleur de notre peau ne sera pas aussi banale que la couleur de nos yeux, tant que sur ce monde régneront l'injustice et le faux, accompagnés de nos archers, nous serons prêts à faire feu. Et même si la route est longue, on tracera vaille que vaille, emmenant dans notre sillon des milliers de pirates samouraïs. On ne reculera devant aucune mine, aucun labeur. Les barrières sont faites pour ceux qui en ont peur. Intifada, révolte à soumission, appel au soulèvement et à la rébellion. Tant qu'il y aura de la flicaille assassine, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qu'on opprime. Avis à la populace, on recrute très très large, on embauche en masse pour une mission piratage. Fait tourner la faux, faut du monde dans l'équipage. Un seul mot d'ordre, tout le monde à l'abordage.
Alors là, vous avez raison, il y a rien danger, parce que là, la presse, à un moment donné, décide que les journaux décident d'être des journaux de combat, comme à Honduras. Là. Ça veut dire qu'il va y avoir du stalinisme en passant à Québec, bientôt ici, je dois vous dire ça.
It's a bomb, duck and cover.
Et vous êtes toujours sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Alors, on a deux militantes de l'association étudiante de Garneau, Valérie Plante-Lévesque et Sandrine Blais-Deschênes. Bonjour.
Bonjour.
Donc, en fait, comme je le disais, il se passe des choses dans le mouvement étudiant. En ce moment, un peu partout, on parle de vote de grève, entre autres dans la région montréalaise, mais on parle aussi de grosses actions qui se préparent à Québec. Est-ce que vous avez l'impression que ça bouge vraiment actuellement dans le mouvement étudiant?
Oui, moi, je pense qu'il y a un réveil qui se fait collectivement dans la région de Québec, entre autres. À Montréal, c'est déjà un petit peu plus parti avec leur blocage économique du 23, mais oui, il y a une conscientisation qui se fait présentement à Québec.
OK. Puis, d'accord, il va falloir se rapprocher un peu des micros, parce que sinon on va avoir de la misère à se faire entendre, puis bien évidemment, ce qu'on veut, c'est se faire entendre, c'est autre chose. Pour ça qu'on organise des manifestations d'habitude. Donc, tu parles du 23 novembre. Il y a le 23 novembre, une journée nationale d'action qui est organisée par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Et puis, il y a des actions un peu partout. Puis là, il y avait du monde qui était supposé de monter à Montréal. Et à Québec, en fait, il n'y avait rien qui s'organisait. Vous êtes reviré de base et décidé d'organiser quelque chose.
Exactement.
En l'occurrence, quoi?
En fait, on suit un petit peu le modèle du blocage économique qui a été lancé à Montréal. Nous, du côté de Québec, étant donné qu'on a la chance d'avoir un boulevard Charest qui est juste en bas du collège François-Xavier Garneau, on a pris la décision de faire une halte à Charest en bloquant littéralement le boulevard Charest, ou du moins faire une marche qui part du cégep François-Xavier Garneau, qui descend par le boulevard de l'Entente sur Saint-Sacrement pour se rendre jusqu'à un stationnement dans le coin du boulevard Charest à l'intersection.
Donc, vous allez être juste... En fait, quand on arrive, c'est encore Sainte-Foy, mais c'est à l'entrée de Québec, là.
Exactement.
Puis, vous faites ça le 23 novembre. Si je me trompe pas, c'est pas juste une action étudiante, là. Vous êtes plus large que ça.
Ouais, c'est vraiment les services publics en entier qui sortent à la rue. C'est notre but. C'est une université populaire qu'on le nomme comme ça, en fait. Là, c'est vraiment... on voulait avoir également une clinique de santé globale. On n'a pas eu la confirmation de ça vraiment encore, mais dans le fond, notre but, c'est vraiment que ça soit une manifestation, pas juste étudiante, syndicale aussi, qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent nous rejoindre, qu'on soit nombreux le plus de gens possible.
Puis, à part l'association étudiante, est-ce que vous avez réussi à rejoindre d'autres gens?
En fait, de notre côté...
Pas vos profs qui étaient supposés de manifester.
Oui, exactement. Le syndicat des enseignants ont dit qu'ils allaient nous appuyer dans notre démarche. Ils attendaient qu'on ait une confirmation au niveau de la police que tout était légal et qu'on avait l'appui du collège. Donc, ça a été confirmé aujourd'hui. Donc, pour l'instant, tout va bien, tout roule. Donc, on a l'association étudiante de Garneau qui est là-dedans, la MOF de Laval qui vient tout juste d'être créée. On a la syndicat des professeurs qui devrait sortir avec nous, la MOF de Limoilou, de Sainte-Foy. On a la coalition en entier, en fait, là, qui regroupe plusieurs groupes dans la région de Québec, la REPAC, si je ne m'abuse, ainsi que, je ne sais pas s'il m'en manque, Alexandre.
Non, je ne crois pas. Il y a justement, on invite tous les gens de la coalition régionale qui ne peuvent pas monter à Montréal à joindre à nous cette journée-là pour justement regrouper le plus de gens possible.
Et bien, le mouvement étudiant bouge tellement que même il grossit à vue d'œil. On est rendu avec une troisième personne. Donc, c'est Alexandra Desby. En fait, tu es coordonnatrice à l'association étudiante.
Oui, c'est ça.
OK. Puis, justement, vous invitez tout le monde à se joindre à vous. Le 23, c'est... s'ils veulent se joindre à vous, c'est comment qu'ils font?
Ils peuvent soit se joindre à nous directement sur place à Garneau à 11h30 ou à midi, on va être au coin Saint-Sacrement-Charest, vraiment en bas, pour créer une halte à Charest.
Puis, si les gens veulent faire partie de la marche, dans le fond, on se rejoint en dessous de la passerelle au Cégep Garneau,
sur la rue Baillargé.
Ben, n'importe qui connaît un peu le campus voit tout de suite c'est où. Puis, pour une première action, à quoi les gens peuvent s'attendre? Est-ce que c'est quelque chose de risqué ou...
Non, on a l'appui de la police, en fait, qui va marcher avec nous et qui va s'occuper de notre sécurité.
Parce que c'est très important au niveau du collège pour qu'on indique le nom du collège dans notre initiative puis pour que les professeurs sortent avec nous, que ce soit un minimum encadré. Pour l'instant, les terrains qui nous sont attribués, c'est un édifice désaffecté sur le coin... je dirais nord-est, puis le terre-plein dans le milieu de la rue et les trottoirs. Là. On dit que c'est un boulevard qui passe beaucoup, puis vu qu'il y a l'autoroute à côté, ils trouvent un petit peu dangereux qu'on soit dans les rues. Puis le syndicat aussi n'était pas très à l'aise avec l'idée d'envoyer les élèves dans la rue, donc on va se concentrer sur le trottoir et le terrain avoisinant. Là.
Donc, c'est une bonne occasion de faire un statement sans prendre de risque d'arrestation, finalement.
Exactement.
Moi, j'étais un peu curieux. Là. Il me semble que le mouvement étudiant à Québec était un peu sclérosé dans les dernières années. Puis là, on voit, là, vous nommiez là, toute une série d'organisations. Est-ce que vous avez l'impression que c'est en train de se relever?
Vraiment beaucoup. Quand on parle que Sainte-Foy organise beaucoup de choses en ce moment au niveau du 6 décembre, Limoilou parle de faire une grève pour le 6 décembre. On s'entend l'année passée quand au 1er avril, excusez-moi, il y avait Garneau qui est monté à Montréal vraiment en tant qu'association étudiante de Québec. Et là maintenant, on sent vraiment que tout le monde est conscientisé, tout le monde... excusez-moi, veut aller dans un front commun vraiment où est-ce qu'on va tous se rejoindre avec l'éducation.
Puis, à quoi on peut s'attendre pour le 6 décembre, justement, là, pour la rencontre des partenaires en éducation?
À beaucoup de monde.
Beaucoup de monde, tout en même temps ou tout pas en même temps? J'ai entendu qu'il y avait des manifs, mais l'un après l'autre.
Exactement. Il va y avoir deux mouvements de manifestation, le mouvement de l'AC et le mouvement de la FEC, qui vont se rejoindre tous au même endroit parce que de toute façon, ils se rejoignent tous au même endroit. Et rendu au point de ralliement, à ce moment-là, les bannières vont tomber, les discours vont changer. Ça va être beaucoup des discours rassembleurs et non plus des discours sous bannières.
OK. Et puis... En ce moment, là, la mobilisation pour le 6, là, vous voyez le 23 comme un tremplin vers ça?
Oui, on veut vraiment initier le mouvement avec le 23, dire aux gens qu'on est là, qu'on va être là, et justement déjà préparer les gens au fait que il y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal, mais le 6 décembre, ça va être à Québec et on va être là.
Puis là, je voyais, on est rendu à 33 000 étudiants qui ont des mandats de grève. Il y a 6 autres associations qui sont supposées d'avoir des votes là, la semaine prochaine, en fait, d'ici 15 jours, j'imagine. Toi, tu parlais à Limoilou. Est-ce qu'ils en parlent ou c'est vraiment ils vont avoir un vote?
À Limoilou, il y a un AG pour discuter de la grève le 24 novembre.
Donc, c'est vraiment officiel. Y a-t-il d'autres places où est-ce que ça commence à se discuter ou... Parce que faire mobiliser des gens le 6 décembre, des étudiants, j'imagine, ne doit pas être simple là, dans la mesure où il y a des examens. Puis.
Au niveau de Garneau, nous, ce qu'on a demandé en ce moment, on a parlé beaucoup avec le syndicat des professeurs pour avoir le moins de cours possible si on veut. On veut pas utiliser la grève maintenant parce qu'on est quand même un gros collège, puis on veut pas justement que les gens voient la grève maintenant et mais qu'on arrive à l'hiver si jamais il y a un problème avec une possible grève maintenant, arriver à l'hiver puis se faire couper les pieds sur le pied en les gens nous disant mais la dernière session qu'est-ce que ça l'a donné, on a eu de la misère avec nos examens, on a été en retard, on a eu une journée de cours de plus, donc on veut vraiment se garder quand même une marge de manœuvre pour l'hiver parce qu'on sait pas qu'est-ce qui nous attend.
Ouais, c'est sûr que si on a une hausse des frais de scolarité.
Ouais, puis aussi comme ça a été mentionné, on est au courant que à Québec le mouvement étudiant est un petit peu plus difficile à aller chercher, donc on veut pas brûler toutes nos alternatives tout de suite, on veut comme s'en garder un petit peu, donc on croit que discuter avec les enseignants, les encourager à nous laisser sortir, faire comprendre aux élèves que des fois un cours à long terme c'est peut-être moins important qu'une mobilisation grande comme ça. Puis aussi, on offre notre support aux autres associations là, qui, Limoilou, ils veulent faire une assemblée générale de grève. Bien, parfait. Si vous avez besoin d'aide pour la mobilisation, la MOB de Garneau est là pour les aider. Mais nous, notre côté, on se concentre pas là-dessus.
Puis justement, c'est ça qu'on remarque de plus en plus. Il y a un gros mouvement d'entraide au niveau de la région de Québec. Les assos, moi, je parle avec les autres assos de Québec au moins une fois par semaine. Il y a une MOB qui s'est créée à Laval. On parle beaucoup avec la CADUL. Vraiment, les gens se parlent, ils se tiennent au courant de qu'est-ce qui se passe pour que, mec, ça soit le moment. Là, tout le monde va être ensemble sur le même point.
Fait qu'au niveau des militants, ça se passe bien, mais il y en a de plus en plus, il semble. Les exécutifs sont complets. Il y a même des comités de mobilisation, ce qui est un bon début. Puis au niveau de la population en général, ben, en fait, la mobilisation à base dans le cégep, ça a l'air de quoi?
Les gens vont chercher de plus en plus l'information. Ils vont venir nous voir, ils vont s'informer, demander qu'est-ce qui se passe. Juste nous à Garneau, en ce moment, nos étudiants sont en train de nous demander de faire un AG que pour parler de la grève, de qu'est-ce qui se passe dans l'éducation, de faire vraiment ce clair à grande échelle pour que le plus de monde soit vraiment conscient de c'est quoi les enjeux et puisse vraiment se faire une tête à partir de tous les mêmes, la même information, non pas des bribes d'informations que tous ont par-ci, par-là.
Il y a vraiment un désir et un besoin d'information et surtout de discussion. C'est ça qui est important. Les gens veulent pas juste être affirmés, mais discuter, débattre, voir tous les points de vue qui sont là, puis c'est ça qu'on encourage, puis c'est ça qu'on essaie de faire le plus possible.
Le monde veut se faire une tête en attendant. Si les gens veulent aller chercher plus d'informations, y a-t-il des sources particulières qui sont à suggérer?
L'assaut de Garneau est ouverte de 9 à 5. Mais ben, dépendant de où est-ce que les gens se trouvent, je pense n'importe quelle association étudiante ou presque dans tous les collèges de la région ont assez d'informations pour bien informer les gens. Et justement, le fait qu'on se parle, on relie l'information. Donc, si nous, on a une information, on la donne aux autres associations étudiantes, ce qui fait que les gens... dans le milieu, les gens ont la même information et là, on est vraiment à travailler à la redistribuer vraiment à tout le monde et à s'entraider pour que tout le monde puisse faire du mass information, là, que tout le monde ait l'information partout à Québec.
Puis sinon, le meilleur moment de nous voir tous ensemble au même endroit, au même moment, c'est vraiment le 23 novembre, coin Charrette, Saint-Sacrement. On va tous être là, tous les gens, les personnes impliquées en ce moment-là dans le mouvement étudiant à Québec.
Donc, le 23, 11h30 sur le campus, c'est midi au coin Charest, puis c'est quoi déjà?
Saint-Sacrement.
OK. Puis sinon, ben, le 23 novembre, on annonce des actions un peu partout. D'après ce que j'ai cru comprendre, il y en avait une à Sherbrooke, une en Outaouais et une grosse à Montréal où est-ce qu'ils attendent entre 800 et 1000 personnes. Il y a d'ailleurs des gens de Québec qui montent pour ça. Il y a une bus qui s'organise. Si vous avez envie d'être du voyage, c'est toujours possible là, de réserver une place auprès du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste au 522-0454. Puis si c'est pas possible pour vous, puis que vous voulez aller voir le mouvement étudiant et tous ses alliés finalement, c'est ça. C'est au coin Charest Saint-Sacrement à midi. Ça va durer combien de temps?
Une heure environ. On a permis pour une heure, mais rien n'empêche qu'on ait une bonne collaboration avec les forces policières et qu'on puisse étirer ça si besoin.
Tant qu'il y a de l'engouement, on est là, on reste là, notre job est à côté, donc on peut passer la journée là.
C'est bon. Puis s'il y a des gens qui voudraient avoir un peu plus d'informations, est-ce que vous avez un numéro de téléphone à part?
Oui, au 681-4134, poste 221.
Ben, je vous remercie d'être passé à voix de fait. Je sais pas s'il y a quelque chose que je vous ai pas demandé et que vous auriez voulu rajouter ou...
Non, je crois que ça fait le tour. Mais merci beaucoup pour l'invitation.
Donc, c'était Alexandra Desbiens, Sandrine Blais-Deschênes, Valérie Plante-Lévesque de l'Association générale des étudiants et des étudiantes du collège chez Félix Garneau. Nous, on s'en va en musique?
Oui, nous, on s'en va écouter The Adjusters avec Truth to Power.
From the factory floor.
All life long.
We will die, die, and we will die, die, and we will not hold down this sacred emblem. Cause it witnessed many a deed and vow, and we mustn't change its color now. Cause not for the bald heads, and not for you. Cause you're nothing but paper tiger, yeah. Nothing but a blow away. Just one strong wind and you'll fly. Just one strong wind and you'll fly. Let the fire make it burn. So strike a match.
Régis Labeau.
Regardez là, je veux juste être respectueux. Poser la question, je pourrais poser n'importe la question stupide. C'est des gens qui disent que c'est juste une question, mais elle est stupide ta question. C'est-tu possible qu'elle soit moins stupide? Bon, ça va être un beau coup de parler de rigueur là. Écoutez, monsieur le président, je peux pas beaucoup répondre à la question. Pourquoi on peut pas mettre un théâtre dans l'amphithéâtre? Parce qu'il y a une seule personne à Québec qui pense que c'est possible, c'est la conseillère Guérette. Tout le monde a compris, ça n'avait aucun sens. Je répète, le projet de diamant dans l'amphithéâtre, ça n'a aucun sens. Il y a une personne sur la Terre qui pense que ça a du bon sens, peut-être Mme Guérette. Je pense que ça ne vaut même pas la peine d'y répondre parce que c'est complètement farfelu. On est respectueux. Mettre le projet de Robert Lepage dans l'amphithéâtre, sur la patinoire, peut-être. Dans la chambre des joueurs, ou je ne sais pas, moi, dans le restaurant. Je ne sais plus, moi, M. le Président, à un moment donné, là, tu sais. Je ne sais plus. C'est bon, on va demander aux acteurs de vendre des hot dogs. Je sais plus. Je sais plus quoi répondre, tellement c'est ridicule. Quand tu dis que ça manque de rigueur, là, c'est un maudit beau cas. Excusez-moi, là. On a du respect. La population a compris, peut-être que Mme Guérette n'a pas compris. On est respectueux. Quand c'est écrit sur le coin de la table, là, pour dire à peu près pas grand-chose, j'essaie d'être rigoureux, j'essaie de changer mon attitude avec l'opposition. J'aimerais ça challenger intellectuellement. Puis ça, c'est un manque de rigueur total. C'est folichon et farfelu. Regardez là, je veux juste être respectueux. Y a-tu quelqu'un qui pensait que le théâtre, le diamant, allait rentrer dans l'amphithéâtre? Voyez-moi donc. C'est fou. On est respectueux.
Madame Guérette, l'article 67 dit une seule intervention. Je vous permets deux interventions, mais là, ça va être fini. C'est clair, là? Ça va être une intervention, maximum 3 minutes.
On est respectueux.
Ce PPP était une gracieuseté de la démocratie en marche à Québec.
Lundi 15 novembre 2010, une trentaine de militantes de l'ère des centres de femmes occupent les bureaux montréalais du ministre Bolduc. Déclaration.
Lundi le 15 novembre, nous occupons actuellement les bureaux de M. Bolduc, ministre de la Santé. Nous, les centres de femmes du Québec, demandons au gouvernement d'abandonner la nouvelle taxe appelée « Contribution santé ». Imposé par le dernier budget.
Cette nouvelle taxe santé est un fardeau supplémentaire qui s'ajoute à toutes les autres hausses de tarifs et nous la refusons. C'est pourquoi nous, les centres de femmes du Québec, aujourd'hui, nous disons non à la santé!
Alors, c'était lundi, le 15 novembre. L'ère des centres de femmes s'est mise en action pour réclamer une fois de plus l'abolition de la contribution santé qui a été introduite dans le dernier budget. Alors, il y a eu des occupations, des distributions de tracts, des actions symboliques. Tout ça était au rendez-vous à peu près un mois après la Marche mondiale des femmes qui portait justement cette revendication-là, entre autres. Alors, c'est quoi la contribution santé? On peut rappeler que, premièrement, elle va être exigée dès le prochain budget, puis qu'elle doit atteindre à terme 200$ par adulte par année en 2012. Alors, il y a Valérie Letourneau, porte-parole du Centre des femmes de Laval, qui déclarait dans un communiqué « Nous sommes indignés de la nouvelle taxe appelée contribution santé, d'autant plus que ses conséquences se feront sentir davantage sur les femmes qui, rappelons-le, gagnent 63% du revenu des hommes. » Alors, c'est une mesure qui est injuste, même si certaines personnes à très faible revenu vont être exemptées. Les travailleuses et les travailleurs à faible revenu puis la classe moyenne vont en sentir le poids de façon disproportionnée, a-t-elle dit. D'ailleurs, d'après le regroupement, la taxe représente une charge 10 fois plus élevée pour une famille qui est composée deux adultes, deux enfants mineurs qui gagnent 30 000$ par année après impôt que pour une famille similaire qui gagne 300 000$ par année. Alors, présidente du regroupement, Mme Lise Cloutier, disait « Nous sommes conscientes que le système de santé publique a besoin d'amélioration et de meilleur financement et c'est pourquoi il propose d'autres solutions que la tarification ou l'imposition de mesures fiscales inéquitables. » Alors, on invoque différentes propositions du côté du mouvement des femmes. Alors, un contrôle du coût des médicaments, une revision des mesures fiscales destinées aux entreprises, l'ajout de paliers d'imposition dans le rapport d'impôt, la revision des taux d'imposition à la baisse pour la classe moyenne inférieure et à la hausse pour les revenus de plus de 100 000$. Donc, selon la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics, ces trois mesures-là, ensemble, rapporteraient à elles seules plus de 3 milliards $ par année à l'État québécois. Faut noter qu'il y a eu des actions un peu partout au Québec. Donc, à Montréal, il y a une trentaine de femmes qui ont occupé les bureaux du ministre Bolduc. Suite à ça, elles ont obtenu une rencontre la semaine prochaine au bureau de Québec. Donc, mais c'est quand même bien. Elles sont sorties avant de subir l'arrestation, parce que leur but, c'était pas de passer la nuit en prison, c'était de faire un statement puis d'avoir une rencontre. Ils l'ont obtenu. Dans la capitale nationale, devant les hôpitaux, il y a des femmes qui ont distribué des tracts qui dénoncent la contribution santé, puis se sont rendues au bureau du ministère de la Santé pour remettre des prescriptions de pilules qu'on n'avale pas. En Mauricie, il y a 2000 pots de pilules qui contenaient autant de prescriptions de pilules qu'on n'avale pas qui ont été rédigées par 2000 femmes, donc c'est une espèce de encombrante, qui a été déposée devant un hôpital dans les Laurentides. Ils ont distribué des tracts informatifs à la population. En Gaspésie, se sont joints à une mobilisation de 150 personnes du regroupement des organismes communautaires qui sont allés dénoncer la tarification et la privatisation des services publics devant les bureaux de la ministre Nathalie Normandeau à New Richmond. Et finalement, à Laval, il y a une quinzaine de femmes qui ont occupé l'entrée de l'Agence de la santé et des services sociaux de Laval sur l'heure du midi pour se prononcer contre la privatisation du système de santé. Puis, ben, juste pour terminer, soit dit en passant, là, l'ère des centres de femmes du Québec, c'est 102 centres de femmes qui sont répartis dans les 17 régions du Québec. Puis, à travers là, ces 102 centres-là, ils rejoignent des dizaines de milliers de Québécoises de tous les âges et de tous les milieux. Puis, vérification faite, l'ère est membre associatif de la Fédération des femmes du Québec. Donc, c'est une preuve supplémentaire que les Morning Men des radios poubelles disent n'importe quoi. Là, je fais référence à Sylvain Bouchard qui n'arrête pas de dire que la FFQ a juste 700 membres. C'est ça pour moi.
Alors, je vais vous parler des augmentations des demandes d'aide alimentaire au Québec et au Canada. C'est que le 16 novembre, c'est le jour de diffusion du bilan de fin des Banques alimentaires Canada. On apprenait que 867 948 personnes ont fait appel aux banques alimentaires du pays au mois de mars 2010. Puis ça, c'est 73 000 personnes de plus qu'en mars 2009. Puis en fait, la tendance est claire. Toutes les provinces ont connu une hausse de l'insécurité alimentaire, même l'Alberta, qui apparemment, ils ont pas de déficit, ils sont bien riches, là. Au Québec, le nombre de personnes qui ont eu recours aux banques alimentaires, ça a augmenté de 12,3% sur un an et de 38% sur deux ans. En un seul mois, ce sont ainsi 310 000 personnes qui ont appelé à l'aide. Dans la région de Montréal, l'augmentation annuelle atteignait 22%, puis à Québec, il parle plutôt d'une croissance de 7,5%, puis il n'y a rien qui laisse prédire une accalmie cette année, même si supposément que Québec n'a pas été touché par la récession, puis voilà. Puis en fait, Moisson Québec, il dépanne au minimum 31 500 personnes par mois, donc il faut croire que la récession... Puis en plus, la preuve, dans le fond, que la récession, ça fait mal à beaucoup de personnes, c'est que 15% des demandeurs d'emploi, ils travaillent, dans le fond.
15% des gens qui font affaire avec les banques alimentaires ont un job.
Ouais.
Yee! Ça doit être bien payé, hein?
Ah oui, c'est sûr.
Comme job, ouais.
Puis là, en fait...
Parce qu'il passe tout en bière, là, c'est évident.
Ouais, oui. On demandera à Sylvain Bouchard, en tout cas.
Ouais. Dans le fond, selon Hélène Côté, la directrice générale de Moisson Québec, bien, ça confirme qu'on ne sort plus automatiquement de la pauvreté en travaillant. Là. Des fois, tu vas travailler, mais tu vas avoir une job à...
C'est sûr que si tu fais 17 000 piastres par année...
Bon, c'est si mettons, on travaille au salaire minimum, c'est quoi, 9 piastres et demi, je pense?
Ouais, au salaire minimum, on arrive à quoi, 60... Je me souviens plus des chiffres exacts, là, mais les revendications, entre autres, de la Marche mondiale des femmes, mais aussi du collectif Point Québec sans pauvreté, c'est d'augmenter le salaire minimum pour qu'il permette à 40 heures semaine de sortir de la pauvreté, parce que pour l'instant, le salaire minimum, c'est un minimum en dessous du seuil de la pauvreté.
Ouais, c'est ça. Puis là, en plus de ça, ben, Moisson Québec, ils vivent des difficultés d'approvisionnement. Pour la première fois cette année, ils ont été obligés d'aller chercher des denrées à Montréal, même à Toronto, pour répondre à la grandissante de la population. Selon moi, d'un côté, c'est une gestion plus serrée des inventaires des entreprises agroalimentaires, du moins sans moins nombreuses. Il y a aussi eu la fermeture du centre de distribution de Provigo à Québec, à Neuchâtel, qui explique que ça manque à gagner.
Ah, c'est sûr que plus qu'ils sont efficaces, hein, les grandes chaînes, moins qu'ils donnent, parce qu'ils jettent moins.
Ouais.
Est-ce que c'était tout pour ça?
Oui.
Hey boy. Deux secondes pour vous parler d'un sondage politique. Après ça, on s'en va en musique, puis on revient avec Stéphane, puis l'extrême droite. C'est juste pour vous dire que l'abstention au Québec dans les élections provinciales se maintient au troisième rang. Alors, il y a un léger recul de l'option abstentionniste, mais elle se maintient quand même en troisième place avec 10% dans les intentions de vote, avec des guillemets, là, tu sais, ils vont s'abstenir. au provincial, selon le dernier sondage, Le Devoir Léger Marketing. Évidemment, c'était pas publié dans le journal. Il fallait aller lire le rapport de sondage sur le site de Léger Marketing. Mais n'empêche, avant la fameuse répartition des indécis, les réponses au sondage se lisaient comme suit. Alors, 29% d'intention de vote au Parti québécois, 26% au PLQ, 10% l'abstention, 9% à ne sait pas. C'est un parti très connu. 9% à l'ADQ, 7% à Québec solidaire, 6% au Vert et 4% à Autre. Donc, Autre, ça, c'est le go des jours, puis d'autres fois, ben, c'est le PCCML, ça dépend. Dans les curiosités à noter de ce sondage-là, on constate que Québec solidaire fait mieux dans la région de Québec, 11% que dans la région de Montréal, 7%. C'est quand même assez particulier. La même chose est évidemment vraie pour l'ADQ, qui fait 19% dans la capitale versus 11% dans la métropole. Sauf que, bon, avec les marges de erreurs qui sont assez énormes dans ce genre d'échantillon-là, on ne sait pas là, jusqu'à quel point est-ce que c'est fiable. À noter également que l'abstention est un peu moins forte au fédéral. On parle de 7% des gens qui veulent s'abstenir. Sauf que, comme on l'a déjà dit, C'est pas grave, parce que de toute façon, on le sait que l'option abstentionniste finit par être celle qui fait le plus le plein de votes le jour des élections, parce qu'elle est toujours plus élevée que ce que le monde dise. Les abstentionnistes sont en général plus gênés que les libéraux.
Ouais, mais hey, on va pas aller en musique.
Non?
Non, on va aller en blague.
En blague, c'est vrai, on en avait une deuxième, puis après ça, on revient avec Stéphane qui va nous parler de quelque chose qui fait pas rire.
Yeah!
La blague anarchiste.
Quel est l'endroit où les généraux d'armée réussissent le mieux à faire aligner leurs soldats? C'est dans les cimetières. Combien de temps peut-on vivre sans cerveau? Pour le savoir, il suffit de connaître à quel âge est mort le plus vieux policier. Dans quelles circonstances un policier penche-t-il vers l'arrière? C'est quand il a une idée derrière la tête. Que dit-on d'un policier qui a une écharde dans un doigt? On dit qu'il sait gratter la tête. Enfin, quelle est la différence entre les policiers et les nihilistes? Contrairement aux nihilistes, les policiers n'ont pas besoin de se forcer pour créer le désordre.
Alors, c'était la deuxième blague anarchiste de la semaine, une chronique qui est préparée par notre camarade Thomas de l'UCL Montréal. Et puis là, on a notre camarade Stéphane de Québec qui va nous parler de choses moins rigolotes.
Oui, effectivement, un documentaire sur la montée de l'extrême droite en Europe, en fait, qui essaye de regarder un petit peu la situation dans différents pays de l'Union européenne. Mais avant, je voulais juste faire une petite parenthèse pour rappeler en fait une conférence qui a eu lieu malheureusement la semaine passée, une conférence d'attaque, mais qui abordait bien toutes les questions fiscales justement que tu as mentionnées par rapport à l'imposition des riches finalement, puisque c'est quelque chose qui est un peu en voie de disparition. Et il y avait une excellente conférence de Alain Denon
mercredi dernier.
Oui, ils créeront plus d'emplois, fait le célèbre trickling down, ça marchera plus, effectivement. Donc, il y a, la semaine passée, il y avait Alain Deneau à Québec qui a fait une excellente conférence à Attaque sur son livre Offshore, puis qui rappelait notamment qu'il y avait 50 milliards de dollars, selon l'OCDE, qui dormaient dans des paradis fiscaux d'épargne, donc qui arrivent à se protéger du fisc juste au Québec. Donc, de quoi largement financer des systèmes de santé publique ou d'éducation. Mais bon, c'était juste une petite parenthèse, puisque j'ai envie de vous parler d'un reportage qui est disponible sur YouTube, qui a été diffusé en avril 2010 par Canal+. Donc, c'est un reportage de 40-45 minutes en 5 ou 6 parties, qui s'appelle « Europe ascenseur pour les fachos ».
Donc c'est Canal+, c'est une chaîne française.
Oui, Canal+, c'est une chaîne privée française, d'ailleurs, même plutôt à droite, mais bon, pas d'extrême droite quand même. La preuve, c'est qu'ils font des reportages sur l'extrême droite, donc la montée de l'extrême droite dans différents
pays. Mais c'est eux qui ont les guignols. Comment ils peuvent être si à droite que ça?
Ouais, bah effectivement, les guignols, c'est quand même une sorte d'institution sarcastique en tous les cas. Mais ouais, enfin, il y a quand même des bons essais ici aussi. Là, j'ai entendu un reportage sur les cyniques il n'y a pas si longtemps. Il y avait des choses assez rigolotes qu'on ne peut plus dire, je pense, aujourd'hui d'ailleurs.
Non, malheureusement.
Mais donc, ce reportage, Ascenseur pour les fachos, bah, qui est un petit jeu de mots d'ailleurs au passage, puisqu'il y a un film de Louis Malle qui est assez connu en 58 qui s'appelait Ascenseur pour l'échafaud. Mais bon, bref, c'est juste une petite parenthèse. Donc, de quoi il parle ce reportage, l'ascenseur pour les fachos? Mais il documente les conditions, en fait, dans lesquelles l'extrême droite émerge, évolue dans différents pays. Donc, en Suède, par exemple, on parle d'une trentaine de groupes qui sont quand même très structurés, très organisés, notamment le NSF. Il y a aussi des groupuscules qui sont ultra violents, ultra radicaux, comme le SMR. Où on rapporte par exemple assez souvent dans la presse des cas de torture de personnes qui sont clochardes, immigrantes, des squads de travailleurs immigrés qui sont brûlés, des gens qui sont torturés, filmés, puis après ensuite abattus, etc. Puis tout ça diffusé sur internet par des groupes d'extrême droite. Fait que la situation est quand même bien tendue en Suède. Puis ça fait également le point sur la situation en Italie, en France, où là la problématique est un petit peu différente. C'est moins des groupes qui s'activent en tant que tels, mais qui sont beaucoup plus proches en fait en passe de légalisation, puis qui sont en train de faire des alliances avec la droite plus traditionnelle. On va revenir là-dessus aussi. Puis ça parle
genre les identitaires, là.
Ouais, genre des identitaires en France, mais surtout en Italie, en fait, quand tu vois notamment la petite fille du Duce là, de Mussolini, qui est quand même dans la coalition, qui est au pouvoir avec Berlusconi, c'est quand même pas mal, là, c'est un beau score. Puis ça documente également donc ce qui se passe dans l'ancienne Europe de l'Est, donc notamment en Hongrie, où là il y a carrément une milice qui est sur pied, donc de 1000-2000 personnes qui défilent en uniforme, avec des matraques dans les rues de la capitale quand même, c'est pas mal. Donc ce que j'ai bien aimé moi de ce reportage, c'était que ça faisait un bon point un peu sur la situation dans l'Europe en général. Puis ça illustrait très bien aussi de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'extrême droite. Donc des gens qui sont racistes, donc dans leur racisme il y a forcément des relents d'antisémitisme qui sont vraiment très forts. Chose assez nouvelle aussi, anti-musulmans, donc beaucoup d'amalgames entre islam, islamisme, terrorisme, etc. Il y a même parfois des références directes à tout ce qui est nazi, donc le culte du Troisième Reich, les SS, etc. Culte de Mussolini aussi, donc des gens, tu rentres chez eux, des militants en fait, qui vont avoir une pièce avec que des drapeaux de Mussolini, que des objets d'époque, etc.
C'est ça, à la limite, c'est folklorique, à la limite du pathologique.
Ouais, c'est à la limite du pathologique, ouais, effectivement, ouais, c'est vrai. J'imagine qu'on doit retrouver la même chose chez certains groupes maoïstes, là, je sais pas trop. Mais c'était effectivement assez rigolo. Mais par contre, tu les vois dans les discours, donc vraiment un fascisme assumé entre eux, contre tout ce qui est démocratique, etc. Souvent des liens avec l'intégrisme catholique aussi, très encouragé par différents prêtres ou pasteurs régionaux, locaux. Des mouvements qui sont également ultra-violents, très sectaires aussi. Ils interviewent, ça c'est intéressant, quelques anciens militants de ces groupes-là, puis qui essayent de s'en sortir à un moment donné, parce qu'ils ont commencé à militer vers 13-14 ans, puis vers 18 ans, ils se rendent compte que c'est de la boîte, et ils essaient de sortir de ces groupuscules-là, et finalement ils sont poursuivis par leurs anciens camarades, si on veut, donc avec des attaques, des attaques contre la famille, même des meurtres dans certains cas, etc. Donc on les voit aussi qui s'entraînent, par exemple, dans certains coins d'Europe à l'instruction militaire, donc au maniement des armes, donc quand même c'est pas mal, donc ça fait un peu aussi écho à un autre reportage qui est disponible également sur internet qui s'appelle À la droite du père, qui est vraiment intéressant sur justement les jeunesses identitaires en France et ses liens avec une partie de l'église catholique, donc un bon reportage. Puis ce que je trouvais pertinent aussi, c'était que ça documentait très bien la stratégie politique de ces groupes d'extrême droite. On voit souvent des conférenciers qui sont organisés, donc une sorte d'international d'extrême droite, si on veut, un international nationaliste. Donc ils viennent dans les différents pays pour donner des conférences, donc des pontes italiens du fascisme qui viennent en France, par exemple, donner des conférences sur le fascisme italien, leur apprendre à se structurer. Donc ils font des réunions communes, des stratégies communes. On parle même d'alliances parlementaires au niveau de l'Europe, par exemple. Donc de la même façon qu'il va y avoir un bloc vert ou un bloc socialiste parmi les députés européens, il y a des blocs également d'extrême droite qui fonctionnent ensemble et qui sont de plus en plus réseautés. Là. Mais bon,
moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Là. Mm-hmm. C'est des ultranationalistes qui font un bloc européen.
Oui, c'est un peu spécial. En fait, on va revenir là-dessus, mais il y a plusieurs idées. Donc le fait d'avoir, grosso modo, les mêmes idées, même si c'est dans une autre frontière, puis c'est sûr que... Il n'y a pas de guerre là qui est latente.
Donc ils sont pour la solidarité internationale.
Ouais, ou une solidarité du chacun chez soi. Je ne sais pas trop si on peut aller jusqu'au mot solidarité. Là, c'est peut-être beaucoup dire. Mais donc il y a cet aspect-là, effectivement, qui est très fort, donc d'une union idéologique d'extrême droite, la nationaliste. Mais il y a aussi la volonté de faire de l'entrisme. Donc c'est-à-dire d'infiltrer toutes les structures du pouvoir. Donc on voit par exemple des jeunes fachos en France qui s'infiltrent dans le parti officiel, l'UMP, le parti de Nicolas Sarkozy, pour essayer de le pousser le plus possible vers l'extrême droite. Donc des gens qui se taisent, qui disent « moi je suis en infiltration depuis 3 ans pour le bloc identitaire ». Donc tu vois, ils sont envoyés en mission carrément par des groupuscules d'extrême droite pour essayer de faire passer leur agenda, puis ils disent « moi je peux rester 10 ans ».
Un peu à l'UMP, ce que les trotskistes étaient au PS.
Un peu la même chose, oui, un peu la même chose, mais sauf que là ça se fait vraiment, en tous les cas, de façon très très discrète. Puis ils attendent leur heure. Parce que de façon générale, c'est quand même assez important. La montée de l'extrême droite en Europe, dans les 10 dernières années, on atteint maintenant un score moyen dans toutes les 25 pays de l'Union, entre 15 et 20%. Donc c'est quand même assez stable.
C'est plus ultra minoritaire.
Hein. Non, c'est ça, c'est plus ultra minoritaire. Puis il y a des discours.
C'est assez pour faire des partenaires de coalition gouvernementale.
Ouais, exactement. Donc dans pas mal de pays, on en est rendu là. Donc par exemple en Italie, en France, il y a plus ou moins besoin de coalition puisque le parti de droite reprend les thèmes de l'extrême droite. Donc ça, c'est aussi une autre façon de faire de l'entrisme politique, forcément. Tes idées sont reprises.
La lepenisation des esprits.
Voilà, exactement. Donc voter Le Pen, voter Sarkozy, c'est un peu la même chose. Puis donc t'as toutes ces stratégies politiques d'entrisme, comme on l'a dit, mais t'as aussi des gens qui donnent des conseils, par exemple de pas s'afficher comme un parti fasciste en tant que tel, mais plutôt de se montrer comme régionaliste. Tu vois, donc, par exemple, on aime la région. Mais ça me rappelle pas mal les discours, justement, de tous ces animateurs de radio qui flattent dans le sens du poil l'homo québécensis, québécensis. Donc, essayer de faire émerger une sorte de pôle régional, là, comme s'il y avait une identité qui était propre à une région. Puis, en fait, d'en profiter pour faire passer un discours nationaliste, xénophobe, quoi. Donc, il y a aussi en Allemagne des gens qui veulent carrément même créer des sociétés parallèles, donc des gens qui sont organisés en think tank, qui essayent de reproduire différents modes d'institutions locales, politiques, régionales, gouvernementales, qui sont toujours parallèles, un peu comme le Troisième Reich avait fait finalement la même stratégie de prise de pouvoir. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y avait une allusion à un moment donné dans le reportage sur des zones nationales libérées. Donc ça peut rappeler un petit peu les FLN. Non, pas forcément. Moi, je pensais plutôt aux zones autonomes temporaires.
Il y a beaucoup de trucs dans ce que tu dis que ça a l'air effectivement emprunté à l'extrême gauche.
Et effectivement, il y a beaucoup de stratégies qui sont empruntées à l'extrême gauche puis qui sont remises au goût du jour. De toute façon, je pense qu'on n'invente pas non plus les stratégies politiques. Il y en a quand même pas mal qui ont déjà été élaborées.
Ce qui me fascine, c'est qu'ils empruntent des choses qui n'ont pas marché.
Ouais, en même temps qui n'ont pas marché, mais quand tu vois les résultats qu'ils ont, c'est quand même pas mal, quoi. Parce qu'il y a aussi une grosse différence avec l'extrême gauche, c'est que eux sont très bien financés.
Ah,
ça peut aider aussi.
L'argent. Cherchez l'argent.
Effectivement, ça vous mènera sûrement loin. Et on les voit par exemple monter des projets d'école en Allemagne ou même en France d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant. Puis surtout, ce qui revient très souvent dans la bouche des différents élus, c'est que l'extrême droite ne vise plus la prise du pouvoir par la violence officiellement, mais par contre, elle veut absolument pouvoir défendre son point par le pragmatisme. Donc ils veulent adopter une attitude pragmatique. Donc on s'habille propre, on met des cravates, on se coupe les cheveux mais pas trop courts, on essaye de pas trop montrer tous ces tatous de croix gammée, et puis on se présente dans les élections, on se positionne, on fait des alliances, etc. Donc c'est vraiment une stratégie lente d'ascension.
C'est la longue marche dans les institutions.
Effectivement, donc les gens qui se préparent à ça. Donc c'est assez intéressant. Ce qui était bien aussi, c'est que ça mettait assez bien en relief aussi l'instrumentalisation réciproque qu'il peut y avoir entre l'extrême droite puis la droite. Donc c'est-à-dire que la droite classique, libérale, néolibérale, a tendance à favoriser des coalitions avec l'extrême droite, alors notamment quand elle est en perte de vitesse, notamment quand elle est trempée dans des magouilles jusqu'au cou. On a tendance à faire des commissions sur les accommodements raisonnables ou ce genre de choses-là, ou des lois sur la burqa, par exemple. Donc, une sorte d'instrumentalisation.
Sur l'identité nationale.
Voilà, c'est ça, des commissions sur l'identité nationale. Donc, ça dressait un beau portrait, en fait, de l'extrême droite en général. Puis, ça présentait également quelques moyens de lutte. Bon, rien de très original, là encore. Quelques sites intéressants de Watch, donc antifascistes, donc des gens qui surveillent finalement l'activité des fascistes. Donc un des plus connus, moi je connaissais pas en tous les cas, mais qui est vraiment bien fait, c'est en Suède, celui de Steve Larsson, celui qui a écrit Millennium en fait. Il a un journal qui s'appelle Expo et il documente énormément...
Il avait,
parce qu'il est décédé, mais ça a été repris par un de ses collaborateurs, là, Daniel Poole, je crois.
Oui, mais c'était en fait son inspiration pour Millennium.
Oui. Puis donc le site est bien fait, il y a beaucoup de renseignements qu'on peut aller chercher. Bien sûr, il y a des manifs qui sont organisés, des groupes antifascistes qui se montent, donc certains qui peuvent avoir recours à une violence pour répondre à la violence des fascistes, d'autres qui préfèrent les démonstrations pacifiques.
Et montrer l'autre joue.
Voilà, ou en tous les cas faire du bruit, gêner, déranger. Il y a aussi l'idée de dénoncer des liens en fait qui s'établissent entre les plus hauts paliers de gouvernement puis ces mouvements d'extrême droite, parce qu'on l'a dit, une des stratégies politiques, c'est de se cacher de l'extrême droite. Donc par exemple, ce qu'a fait le journal Expo en Suède, c'était de faire des enquêtes dans lesquelles il montrait que des gens du Parti social-démocrate, qui est en fait un changement de nom pour un parti nazi, avaient financé des groupuscules pendant qu'ils étaient au pouvoir, donc pas mal de chèques pour les aider à faire leur camp de Boy Scout, là où on apprend à...
Ouais, c'est comme le PS puis la FN.
Comment, excuse-moi ?
C'est comme le PS puis le FN.
Je sais pas si on peut vraiment faire un...
Parce que le PS a vraiment instrumentalisé le FN.
Oui, ah oui, ça, pendant que Mitterrand est au pouvoir, effectivement, ouais. Mais de là, le financer aussi directement, je sais pas si c'est exactement
la même chose. Non,
donc l'idée, c'est d'essayer d'augmenter un peu le coût politique des associations, finalement, avec l'extrême droite. Diffuser des idées progressistes, c'est sûr, parce qu'il va bien falloir qu'un jour... elles servent. Et aussi, il rappelait aussi l'importance d'avoir des lois sur la propagande d'extrême droite. Donc ça, c'est peut-être un débat qu'on pourrait faire ici aussi à voix de fait, savoir dans quelle mesure ça peut être utile d'avoir des lois qui protègent ou pas sur les discours haineux, par exemple, ou des choses comme ça. Et bien sûr, l'élection de candidats progressistes, donc dans certaines régions. Parce qu'il faut quand même, je pense que c'est un bon reportage à voir pour voir un peu l'ampleur de la situation en Europe. Il y a par exemple des gens comme le maire de Rome, sur lesquels on retrouve 2-3 ans avant son élection à l'enterrement d'un grand fasciste italien en train de faire des saluts nazis, des saluts mussoliniens, etc. Donc des gens qui sont très haut placés au pouvoir et qui sont directement impliqués dans des mouvements fascistes ou nazis. Donc ça vaut la peine, je pense, de regarder ce reportage-là. Ascenseur pour les fachos, sur YouTube.
Puis l'autre reportage dont tu parlais, c'est À la droite du père.
Oui, À la droite du père, qui est également disponible sur YouTube ou Dailymotion, avec une enquête sur l'extrême droite, puis ses liens avec l'Église catholique.
C'est tout?
Oui, c'est tout.
Ben, merci Stéphane, nous on s'en va en musique.
Oui, on va finir l'émission avec Simmer Down, repris par The Mighty Mighty Bosstones. Simmer down, my head is too hot, so simmer down, he's gonna get dropped, so simmer down, man, he hears what I say, simmer down, now I've got to simmer down.
Donc, comme on disait, c'est ce qui va mettre fin à cette édition de Voix de Fait. On va remercier les camarades de l'Association Générale des étudiants et étudiantes du Collège FX Garneau qui sont passés nous voir. C'était Nicolas en compagnie de...
Et Farouko qui avait fermé les micros.
Et Janie qui est silencieuse pour l'instant. Juste vous dire une très petite plug. Vendredi le 19 novembre à la Page Noire, il y a un 5 à 7 pour le lancement d'usine Good the Queer de Coco Riot qui va être sur place. Et de la monographie sur les Panthères Roses qui a été réalisée par le collectif de recherche sur l'autonomie collective Crack Québec. C'est dès 17h. Et la Page Noire est située au 265 rue Dorchester.
Parole et dans l'autre journal deux dossiers sur le réseau Liberté Québec. Je pense qu'ils peuvent intéresser pas mal de monde de la région.
Écrit par un certain Stéphane.
Ça doit être bon.